Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
La curiosité. C'est vrai qu'on a la chance de vivre une époque formidable où la science progresse à grands pas, en particulier dans le domaine spatial, où on visite de nouvelles planètes, où il y a des rêves maintenant qui se dessinent à l'horizon d'aller explorer la planète Mars. J'espère le voir de mon vivant. Et tout ça, c'est fantastique.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Charles Frankel, planétologue et écrivain scientifique. Charles Frankel est intervenu dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « Le vol piloté vers Mars, de nouvelles ambitions ».
Pour le vol vers Mars, quand on me demande quand ça aura lieu, je me dis toujours « dans 10 ans ». Et si vous me reposez la question l'année prochaine, je dirais également « dans 10 ans ». Parce qu'en fait, hélas, on patine, mais le jour où on prendra la décision, le jour où quelqu'un ou une agence voudra le faire, ça sera fait en moins de 10 ans.
Et chaque année, on dit que vous êtes médisant.
Voilà, exactement. Nous, au contraire, là, je suis optimiste du coup. Et je pense qu'il y a quelques personnages maintenant qui vont secouer le cocotier, que l'on n'attendait pas. Il y a 10 ans de ça, je ne savais même pas qu'ils existaient. Et je pense à Elon Musk, qui est un entrepreneur américain, qui, à mon avis, tout seul va arriver à faire partir la civilisation vers Mars.
Qu'est-ce qui fait que ce n'est plus tout à fait un rêve aujourd'hui ? Les progrès techniques, les expérimentations sur Terre, et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas tout de suite ? C'est le manque d'argent ?
En fait, c'est le manque de vision et c'est le manque de direction des agences spatiales qui tournent en rond. C'est d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, puisqu'ils tournent en rond autour de la Terre dans la Station Spatiale Internationale, qui est une belle réalisation technologique, mais qui va nulle part, par définition. Or, il se trouve que si les agences patinent, que ce soit la NASA en particulier, il y a des individus, des milliardaires qui ont leur rêve justement de la conquête spatiale, qui ont dévoué leur vie, qui pèsent maintenant des dizaines de milliards d'euros et qui pratiquement tout seuls vont faire bouger le schmilblick et vont lancer l'humanité vers sans doute carrément une colonisation de la planète Mars. Ça, une agence spatiale, c'est pas son truc. Mais des personnes, on va dire illuminées, qui sont hantées, qui sont par ce rêve, eux vont réussir à le faire.
On n'est pas dans l'idée d'un aller et d'un retour.
Non, car en fait, quand on regarde le projet qu'a Elon Musk, c'est vrai que ses premiers projets, il va poser des fusées sur Mars avec des équipages à bord. Là, c'est vrai que pour les deux premiers vols en particulier, ils resteront un certain temps, je pense qu'ils resteront 2 ans. Ils reviendront peut-être, mais dans la volonté de Musk, ce seront des tickets aller simples. Très bientôt, les gens iront s'installer sur Mars. Ils n'iront pas juste pour visiter.
Si je fais l'analogie avec la conquête des Nouveaux Mondes, les colons pouvaient s'installer parce qu'ils avaient tout sur place. Ils pouvaient cultiver, il y avait de l'eau. Là, ce ne sera pas le cas, donc ce n'est pas tout à fait.
Et si, justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la planète Mars, c'est un peu comme le Nouveau Monde, elle a des ressources énormes. Elle a de l'eau. En fait, on a l'habitude dans les médias de dire « il n'y a pas d'eau sur Mars, on n'a pas encore trouvé de l'eau liquide ». Oui, bien sûr, parce que l'eau, elle est gelée, tout simplement. Mais elle est partout. Vous avez des kilomètres cubes de glace sur place. Donc ça, c'est évidemment une matière première fondamentale. Sinon, ce ne serait même pas la peine de penser coloniser Mars. Mais en plus de l'eau, vous avez des matières premières facilement exploitables pour bâtir. Vous avez de l'argile, on peut faire des briques. Vous avez du gypse, on peut faire du plâtre. Vous avez du sable, on peut faire du béton, et vous avez des métaux. Alors les métaux, ils ne sont pas sous la forme de filons facilement exploitables, mais il y a énormément de fer, par exemple, sur Mars. La preuve, sa couleur rouge.
Mais ce ne sera pas des balades à l'air libre.
Ce ne sera pas des balades à l'air libre. Pendant très très longtemps, on sera tenu à être effectivement sous cloche, sous serre, peut-être sous des grandes cloches, peut-être que ce seront des hectares qui seront sous une atmosphère artificielle. Mais dans un premier temps, on va faire simple. On va faire dans la fusée elle-même, qui sera un module d'atterrissage. Ce seront des camping-cars, si vous voulez, qu'on va connecter les uns aux autres pour faire un petit village de camping.
On fait le pari que l'espèce humaine va s'adapter, peut-être avec des petits poumons, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi.
C'est vrai qu'il y aura une adaptation à la planète Mars, en fait, à sa faible gravité. C'est surtout ça qui est la grande inconnue, parce que l'atmosphère, elle sera artificielle, on va se la faire. On peut doser notre proportion d'azote et d'oxygène dans l'air qu'on respire dans nos scaphandres et dans les serres, donc c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que vous ne posez pas grand-chose sur Mars. Mars a une gravité qui est à peu près le tiers de celle de la Terre. Donc vous pesez, voilà, si vous pesez 100 kg avec votre scaphandre sur Terre, vous pesez 38 kg sur Mars. Or, ce n'est pas très sain, parce qu'on a déjà vu ça en 0G. On ne sait pas comment le corps va réagir à ce faible poids au niveau de sa musculature et de ses os qui vont se dégrader. Ça, c'est une grande inconnue. Et il faudra vraiment vivre dans cet environnement pour savoir ce qui se passe.
Quels enseignements a-t-on tiré et tire-t-on peut-être encore de ces expérimentations sur Terre ?
Alors, sur Terre, on peut faire semblant d'être sur Mars, par exemple, et de conduire des fausses explorations. J'ai participé à certaines d'entre elles dans le désert de l'Arctique et le désert de l'Utah. Mais rien ne vaut le vrai vol, le véritable vol, parce que vous êtes vraiment dans des conditions à ce moment-là tout à fait difficiles d'un point de vue physique, comme je le disais au sujet de vos os et de vos muscles, mais surtout psychologique, parce que vous êtes, tant que vous faites des simulations sur Terre, vous savez très bien qu'on peut venir vous repêcher s'il y a un problème. Quand vous êtes sur Mars, c'est pas pareil. Vous êtes livré à vous-même, vous pouvez dire « Houston, on a un problème », ils vous répondront « débrouillez-vous », parce que vous êtes à 6 mois de vol. Donc, il faudra, pour ceux qui s'installeront sur Mars, être intelligent, déjà, débrouillard et bricoleur. Si vous n'êtes pas bricoleur sur Mars, vous n'allez pas tenir longtemps.
Elles ont servi à quelque chose, ces expérimentations, tout de même ?
Les expérimentations sur Terre et également dans la Station Spatiale Internationale, hein, parce que c'est également une façon de simuler un long vol spatial, oui, elles servent en particulier à réfléchir comment exploreriez-vous une planète. Voilà, vous arrivez sur une planète, qu'est-ce que vous faites ? Si vous n'avez pas préparé, si vous n'avez pas réfléchi à ça en avance, c'est un peu bête. Vous perdez beaucoup de temps une fois que vous êtes sur Mars. Donc sur Terre, vous pouvez déjà vous mettre dans cet environnement de pensée. Vous pouvez tester des appareils, des instruments que vous utiliserez sur Mars. Mais surtout, vous vous mettez dans votre bulle et vous réfléchissez comme un Martien.
Parce que les Martiens existent et ils réfléchissent.
Les Martiens existeront et ils réfléchiront.
En fait, ce sont des humains martianisés.
Il y a des enfants en ce moment, des enfants ou des adolescents, peut-être même des adultes en ce moment sur Terre, qui sans le savoir, en fait, seront un jour sur Mars. Et peut-être c'est leur rêve, peut-être que ce sera Thomas Pesquet, je lui souhaite, parce qu'il est encore jeune, il peut ambitionner de faire un vol vers Mars, mais c'est peut-être dans les écoles en ce moment, et les universités, que les futurs Martiens, qui ne se connaissent pas encore, sont en train de faire leur classe.
Pourquoi ne pas envisager une étape qui serait l'installation sur la Lune ?
Alors la Lune plaît beaucoup parce qu'elle est proche et les agences gouvernementales comme la NASA et l'Agence spatiale européenne sont braquées sur faire quelque chose autour de la Lune ou sur la Lune. Mais ces projets, moi je les vois passer régulièrement, des versions différentes, et il manque quelque chose, il manque un objectif. Il n'y a franchement aucune raison de tourner autour de la Lune. Il y aurait une raison de se poser sur la Lune, mais faudrait-il encore vouloir y faire quelque chose ? On l'a déjà fait, on a déjà énormément d'échantillons qui sont encore distribués au laboratoire. Ce serait bien d'en avoir plus, évidemment. Moi, je serais le premier à dire bravo, parce que j'adore la géologie, de voir de nouveaux astronautes se poser sur la Lune. Mais ça manque d'ambition, et puis surtout, la Lune, bien qu'elle soit très proche, c'est pas Mars. Vous pouvez pas y vivre, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau. Il y a quelques traces de glace peut-être au pôle, mais alors vraiment homéopathique. Il n'y a pas de beau paysage, ça n'inspire pas du tout. Ça n'inspirera pas les hommes. Et donc, à mon avis, on est condamné à aller vers Mars. Et le plus tôt on le fera, le mieux on se portera, parce que entre les deux, on perd son temps. Que je vais présenter et que nombreux connaissent parce qu'il est fantasque, c'est Elon Musk. Il est le dirigeant d'une entreprise de construction de fusées aux États-Unis, mais également des automobiles électriques Tesla et de bien d'autres entreprises encore. Et cet homme est illuminé dans la mesure où il a des idées. Voilà, c'est la bonne façon d'être illuminé. Mais à la différence de beaucoup d'illuminés, il arrive à les réaliser. C'est ça qui est extraordinaire. Quand il dit quelque chose, on pense, mais il dit n'importe quoi. Et au bout de 5 ans, il l'a fait. Et c'est ça qui est remarquable chez lui. Ce ne pourra être toujours qu'une minorité de personnes riches, parce qu'elles paieront pour aller sur Mars, qui iront sur Mars. Donc, en fait, il ne faut pas penser que Mars peut être une chaloupe de sécurité, de sauvetage, au cas où la Terre va mal. Nous avons la responsabilité de gérer notre Terre intelligemment, et si on ne le fait pas, une grande partie de la civilisation disparaîtra. En revanche, l'idée de Elon Musk, c'est qu'il faut mettre ses œufs dans des paniers différents, pas dans le même panier. On aura une petite colonie de Martiens qui pourra être quelques milliers de personnes. Lui, il envisage franchement, au cours du siècle, de poser plusieurs milliers, voire il dit même millions, de personnes sur Mars avec ses fusées. Parce que ce n'est pas des petites fusées qu'il va être en train de construire. Et il va les construire maintenant. Hein. Il commence déjà, d'ici 2 ou 3 ans, elle va voler. Et elle pourra emmener 100 astronautes à la fois vers Mars. Donc c'est un projet assez grandiose. Mais ça sera encore qu'une petite colonie. En revanche, si effectivement il y a un problème sur Terre et que la civilisation vacille, celle sur Mars perdurera. Et un peu la philosophie de Elon Musk, qui pense à très très grande échelle, c'est qu'on va devenir une espèce multiplanétaire, Homo sapiens.
Donc Mars, ce sera une étape, parce qu'on imagine, on extrapole un peu plus loin, que lorsque le Soleil, notre étoile, aura brûlé toute son énergie, il faudra décamper et trouver d'autres planètes d'asile.
D'autres havres. Mais alors ça, c'est une échelle de temps qui me dépasse complètement. Parce que je vois encore ce qu'on raconte au sujet de la planète Mars, c'est vraiment le présent. C'est vraiment quelque chose que, de notre vivant, on va voir se passer. Moi, j'espère bien le voir de mon vivant. Les problèmes qui peuvent affecter la Terre de façon astronomique à grande échelle, c'est-à-dire le Soleil qui, au bout d'un moment, va disjoncter, la Terre ne sera plus dans un environnement vivable, ça, c'est dans 4 milliards d'années à peu près. Donc, comme une espèce comme la nôtre, on n'a que 200 000 ans d'âge, hein, Homo sapiens, ou 300 000 ans à tout casser, voilà. 4 milliards me paraît inenvisageable pour dresser des plans. Mais le court terme, lui, le court terme, c'est notre petit système solaire, c'est colonisé. Mars, il n'y a pas grand-chose d'autre à coloniser, en fait, autour du Soleil. C'est ça que, quand vous faites le tour de la question, la Lune, bof, Vénus, invivable, Mars, ouais, avec des petits problèmes, mais pas trop, et ensuite, il n'y a plus rien. Le reste, Jupiter, les lunes de Jupiter, tout ça, c'est franchement difficile et sans intérêt, enfin, intérêt scientifique, mais sans intérêt pour vivre. Donc, je pense qu'on va être une société, une civilisation à 2 planètes, très bientôt, la Terre et Mars.
Alors, on imagine d'embarquer dans ces fusées, donc je suppose que tout est prévu.
En fait, Elon Musk prévoit effectivement salle de cinéma et restaurant plutôt haut de gamme dans sa fusée. Bon, quand même, c'est l'espace habitable pour les 100 astronautes de sa fusée, c'est à peu près un Airbus A380. Hein. Donc, il y aura de l'espace et... Elon Musk est quelqu'un qui est très très pragmatique, il veut que le vol soit plaisant. Donc il y aura des activités à bord, des jeux, que sais-je. Bon, j'imagine que de façon interstellaire, on peut y mettre un casino, il n'y aura pas de taxes, etc. Mais il pense à tout ça. Et d'ailleurs, sa grosse fusée qu'il construit pour Mars, il va lui trouver d'autres applications. Il est déjà en train de penser en faire un véhicule de transport de personnes entre les grandes villes de la Terre, faire des vols. Évidemment, hyper supersonique parce que ça va voler à Mach 25, mais où on pourra rallier par exemple Paris à Tokyo en 30 minutes. Et ça, c'est dans ses plans, c'est dans ses projets. Il est déjà en train d'étudier ça, que sa fusée aura plusieurs fonctions.
Déjà, au bout de 10 heures, j'en ai marre dans un avion, donc 6 mois, j'ose même pas l'imaginer.
Oui, c'est vrai que ça sera un peu spécial. En plus, en 0G, en faible pesanteur, il y a des choses qui sont pas très pratiques. Aller aux toilettes, par exemple, des petits détails auxquels il faut penser.
Nous accompagnons dans la rue Charles Frankel, planétologue et écrivain scientifique.
n'y a rien à regarder par les hublots. Franchement, la Terre va devenir une pâle étoile au loin. Vous aurez un ciel d'encre d'un côté, le soleil brillant dans un ciel noir de l'autre. Ouais, il faudra que, quand même qu'on pense à des activités intéressantes pour qu'on ne s'emmerde pas en 6 mois.
On imagine que des couples vont s'embarquer et qu'il va y avoir des naissances sur Mars. Ils auront quel passeport ?
Ça, c'est le domaine, effectivement, de la belle science-fiction. Je crois que pas mal d'auteurs écrivent là-dessus, ont des scénarios intéressants. C'est difficile à imaginer que, comment les rapports sociaux internationaux, parce que ce sera certainement vraiment une population très variée sur Mars, comment tout ça, ça va se dépatouiller ? Aucune idée. C'est une branche de la science-fiction, de la sociologie, on va dire, qu'on va voir se dérouler devant nos yeux, si bien sûr ça se fait dans les quelques décennies à venir, mais je pense que ça sera le cas. Il y aura des surprises. Si l'évolution suivait un cours naturel, vous auriez une évolution de l'être humain parce que les personnes moins adaptées ne se reproduiraient pas et périraient, les mieux adaptées auraient une descendance et ainsi de suite, ce qui a toujours été le cas dans l'évolution. On est arrivé à un stade dans notre civilisation où ce n'est pas le cas. On arrive à sauver tout le monde, même avec des malformations, donc il ne va pas y avoir une sélection naturelle. Et là, c'est un peu l'homme qui va décider quelle évolution il veut donner par le génie génétique à sa propre espèce. Et là, on rentre encore dans une autre dimension de la science ou de la science-fiction qui n'est pas facile d'un point de vue éthique et tout ça. Qui sait, la reproduction en 1/3 de G, je ne sais pas ce que ça donne à long terme. Effectivement, on aura moins besoin d'avoir une forte musculature sur Mars à cause justement de cette absence de poids ou cette diminution de poids. Qu'est-ce que ça entraîne ? Je ne sais pas. À long terme, génération après génération, grand mystère.
Les cousins qui reviendront 30 ans après dans leur famille sur Terre souffriront ?
Vraisemblablement, oui. L'adaptation, la réadaptation à 1G au poids qu'on a sur Terre, pour quelqu'un qui aura passé toute sa vie ou une grande partie de sa vie en 1/3 de G à peser 3 fois moins. Tout à fait, l'acclimatation sera rude, on voit ça avec les astronautes qui reviennent après 6 mois seulement de la station spatiale, hein, comme Thomas Pesquet et les autres. C'est quand même un peu rude les premières semaines. Et il y a des effets plus ou moins à long terme, que ce soit justement au niveau cardiovasculaire, au niveau des os. Je pense pas que ce soit très grave, mais il y a quand même des effets.
Dans quel sens l'adaptation sera la plus dure ?
L'adaptation la plus dure, c'est revenir sur Terre. Parce que aller dans le sens où vous allez vers une gravité moindre, tout est plus facile, les mouvements sont plus faciles, mais votre corps, justement, pendant ce temps-là, se détériore, puisqu'il n'a plus besoin de fournir autant d'efforts pour entretenir sa charpente osseuse, pour entretenir sa musculature. Donc, il y a dégradation. Par exemple, les os réagissent automatiquement en expulsant du calcium. Il y a une ostéoporose qui se fait, systématique, qui ne vous gêne pas trop, parce que c'est une adaptation à votre nouvel environnement. Mais quand vous revenez dans l'autre sens, c'est là où vous allez souffrir, parce que vous n'êtes plus adapté au poids terrestre. Et votre corps ne va pas se remettre automatiquement dans son état premier. Il y aura des séquelles, ou il aura beaucoup plus de mal à revenir à son état initial. Il est possible qu'il y aura des animaux, mais il faut que ce soit des animaux pratiques qui aillent sur Mars. On peut penser, ne serait-ce que pour l'alimentation, les poules, elles auront encore plus de mal à décoller, évidemment, en battant des ailes, parce que l'atmosphère sera fine. Je veux dire, on leur fera une atmosphère, bien sûr, mais on ne va pas leur donner un bar de pression comme sur Terre. Hein. Les abeilles aussi, ce sera important pour polliniser nos cultures. Mais pour qu'une abeille décolle dans une atmosphère fine, ce n'est pas facile non plus. Ça va être très intéressant à voir.
J'ai envie de savoir si vous seriez prête à quitter la Terre pour aller vivre sur Mars.
Ben non, pas du tout.
C'est une planète qui ne vous intéresse pas, ou vous êtes très bien sur Terre ?
Voilà. Je pense qu'il vaut peut-être mieux améliorer ce qu'il y a sur Terre plutôt que partir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parfait, c'est certain, mais voilà, non, pas Mars.
Vous détestez les voyages ?
Non, pas du tout.
Et l'aventure ?
Pas du tout non plus. Du tout. Mais il y a plein d'aventures sur Terre. Hein.
Et il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur Terre.
Je pense qu'il ne faut pas, comment dire, fuir.
Ticket pour Mars, alors,
pas
pour vous ?
Pas ticket. Il y a beaucoup de gens qui veulent des tickets pour Mars. Hein.
Je pense que oui. Bon, tout dépendra du prix, évidemment, parce que ce ne sera pas gratuit. On s'avance vers quelque chose de civil où ce seront vraiment des personnes qui veulent y aller. Oui. Le prix du ticket, Elon Musk peut le faire de lance de cette vision. Pense qu'il peut faire le ticket pour genre 100 000 euros, dollars ou quelque chose comme ça. Donc, c'est abordable.
Il y aura peut-être du monde.
Voilà. D'ailleurs, il va faire partir une fusée vers la Lune, en théorie dans 2 ans, avec 2 places qui ont été réservées par déjà par deux personnes. Alors, on ne sait pas qui et on ne sait pas combien ils ont payé, mais ils ont payé, effectivement, ils ont payé des deposits, une avance.
Vous imaginez les conditions dans lesquelles ils vont vivre sur Mars ?
Non, pas du tout. Il fait froid.
Ah oui,
il fait froid.
Il fait en moyenne,
Oui.
Alors, planète rouge, parce qu'elle est très oxydée, beaucoup de poussière rouge.
Quelles seraient vos motivations pour aller vivre sur Mars ?
Découvrir. Je sais pas. Non, juste découvrir.
Vous vous imaginez les conditions de vie sur Mars ?
Pas beaucoup, non.
Spartiate, vous serez bien sûr dans un premier temps dans un vaisseau pressurisé, une espèce un peu sous cloche, avec pas beaucoup de liberté de mouvement. Une atmosphère bien sûr artificielle, des sorties en scaphandre, toujours dangereuses. Voir une automobile pressurisée, ce serait encore mieux, parce qu'il y a un peu moins de risques pour visiter le paysage. Est-ce que vous avez vu le film Seul sur Mars ?
Oui.
Est-ce que vous avez aimé ?
Je l'ai pas beaucoup aimé.
Quelles étaient les critiques que vous aviez ?
Bah, c'est plus too much, enfin, ils en font un peu trop, je trouve. Un peu comme tous ces films, genre Gravity et tout ça.
Je suis d'accord, je pense qu'ils ont, bien rendu les difficultés techniques de vivre sur Mars, mais c'est trop grandiloquent, effectivement, y compris le vaisseau spatial qui vient le sauver. Voilà, c'est toujours Hollywood, effectivement.
Mais 6 mois de durée de vol, ça ne rebute pas ?
Ah si, si, j'attendrai quand même avant qu'il y ait des améliorations, enfin qu'il soit plus court, oui, avant.
Et il pourrait ? Ça se pourrait. Elon Musk, c'est une question effectivement de carburant. On peut aller plus vite en emmenant moins de personnes. Donc au lieu d'emmener 100 astronautes à la fois, on en amène 50 et on peut gratter sur le temps de parcours et le faire tomber de 6 mois à 4 mois par exemple.
Thomas, il faudra qu'il s'entraîne longuement pour embarquer ?
Pas tant que ça, parce que le vol en 0G, on s'y habitue très vite, il n'y a pas de contraintes, et puis le pilotage sera fait par d'autres personnes. Hein. Le tout, oui, une fois sur place, il faudra évidemment toujours braver toutes sortes de problèmes, de bricolage, de quoi que ce soit, parce que voilà, ce sera une ville frontière, une ville aux portes du nouveau, où tout reste à faire.
Oui, mais il y a quand même un entraînement.
Oui, il y aura un petit peu d'entraînement, il y aura une petite accélération au décollage, mais pas comme avant, ça ne sera pas trop problématique. C'est bon, on peut lui vendre un ticket tout de suite.
Et son petit cœur encaissera ?
Oui. Comme je vous dis, le problème, c'est la décalcification osseuse à terme, c'est un peu de perte de masse musculaire, le problème des radiations. Là, vous vous prenez pas mal de rayons cosmiques. Là, c'est taxant, vous payez un prix.
C'est moyen.
Oui, ça, c'est moyen. Je vous l'avais pas dit pour pas vous décourager, mais là, il y a un petit prix à payer.
Il y a 100 000 euros à trouver.
Oui, à mon avis, oui, c'est ça, 100 000 euros ou 200 000. À mon avis, ça sera le prix.
Ouais, non, bah je les ai pas sur moi. Après, d'ici là, peut-être.
La petite blague, c'est que Elon Musk teste une nouvelle fusée de sa fabrication, la Falcon Heavy, qui va être une des fusées les plus puissantes sur le marché, qui devrait décoller en principe en janvier. Elle a été retardée par des petits problèmes techniques, c'est jamais simple. Comme c'est un vol technique uniquement, il n'a pas de client, il n'y a pas de satellite à lancer. Donc il a décidé qu'il allait lancer dans l'espace, vers Mars, tant qu'à faire, pourquoi pas, sa voiture de sport, sa cabriolet. Il va la mettre dans la coiffe de la fusée et il va envoyer comme ça une cabriolet qui va tournoyer dans l'espace en allant vers Mars et ailleurs. Parce qu'en fait, en plus, il a de l'humour.
Et puis, elle ne passerait pas au contrôle technique.
Oui, je pense qu'elle ne passera pas au contrôle technique interplanétaire.
L'aventure est financée non plus par la puissance publique, mais par les capitaux privés.
Mais complètement. Elon Musk est extrêmement pragmatique. Il a commencé sans argent, il a commencé à 12 ans à écrire un jeu vidéo. Et il vaut maintenant à peu près 30 ou 40 milliards d'euros. Donc c'est un homme qui sait faire de l'argent. tout ce qu'il fait a une fonction économique. Ses fusées sont rentables. Il a trouvé des façons de complètement casser le marché. Ariane n'a qu'à bien se tenir d'ailleurs. Et pour la fusée martienne, c'est pareil. Il a pensé comment la rentabiliser. Donc il a trouvé des solutions déjà. Il va l'adapter pour faire toutes sortes d'autres vols, en plus des vols martiens, que ce soit pour des satellites de télécom, etc. Ça va devenir sa fusée à tout faire.
Elle a un nom, sa fusée ?
Oui, hélas. Hélas, sa fusée a un nom qui est difficilement avouable. Elle s'appelle la BFR. Et en fait, c'est pour Big Fucking Rocket. Donc, ça passe difficilement sur les ondes, mais c'est sa petite blague en interne. Mais bon, ça a évidemment une signification en anglais très, très vaste. C'est un adjectif à tout faire pour dire quelque chose d'incroyable ou d'exceptionnel. Voilà, donc, Big Fucking Rocket, BFR.
Elle décollera d'où ?
Alors, elle décollera du Cap Kennedy, carrément. Sa société a deux pas de tir au Cap. Il a... En leasing, il a le pas de tir des anciennes fusées Apollo qui allaient vers la Lune. C'est de là que va partir d'abord la Falcon Heavy, qu'il est en train, donc, la première qu'il est en train de construire, qui part l'an prochain. Et ensuite, la BFR, la Big Fucking Rocket, partira de là, mais elle pourrait partir de n'importe quel autre pas de tir construit pour la circonstance. Et c'est pour ça qu'il pense pouvoir, justement, l'utiliser pour faire des vols commerciaux autour de la Terre pour aller de point A à point B, de Tokyo à Paris, de Londres à Singapour, à partir par exemple de plateformes, des barges en plein océan. Et il est devenu un spécialiste des tirs depuis des plateformes océaniques, et y compris, il récupère, alors c'est là où il est très fort, il récupère son étage de fusée, et c'est ça qui fait baisser les prix, pour le réutiliser. Après s'être détaché pendant que le second étage va en orbite, le gros premier étage vient se reposer automatiquement sur le pas de tir. C'est extraordinaire. Alors, quand il a commencé à faire ça, moi je pensais qu'il n'y arriverait jamais. Et bien maintenant, ce n'est pas qu'il y arrive jamais, c'est que à chaque fois ça réussit. Il en est à 17 vols de suite où le premier étage vient se poser tout gentiment sans se casser la gueule sur le pas de tir.
Avec des gros parachutes.
Non, même pas.
Même pas.
Pas de parachute du tout. Il garde assez de propergol dans les réservoirs pour simplement piloter avec les moteurs fusées. Les moteurs fusées qui servaient à l'ascension servent ensuite en rétrofusée pour l'atterrissage. Il laisse à peu près 7% de propergol dans le réservoir pour la phase de descente. Et donc 93%, c'est pour la phase de montée. C'est incroyable d'ailleurs, il y a les films, on peut regarder sur YouTube, etc. Il y a les films qui circulent justement de ces réatterrissages d'étages qui sont quand même des gros cylindres de 30 mètres de long avec 9 moteurs fusées dedans. C'est spectaculaire. Alors les premiers, oui, il y a les premiers tests. Il y a 4-5 ans, ça se cassait la gueule. Mais très rapidement, très très rapidement, ils ont corrigé les petits défauts et maintenant, ça marche à tous les coups. Une personne comme ça, Elon Musk, a vraiment révolutionné notre façon de penser les fusées. D'ailleurs, il a un sens de l'humour, une assurance à toute épreuve. Et quand il rentre dans un congrès international de fabricants de fusées, il dit « Mais je vais tous vous enterrer parce que moi, au moins, je récupère mes fusées. » Il est en train de faire baisser les prix du kilo en orbite. Il est en train de conquérir le marché.
Merci à Charles Frankel et merci à
Marie-Claire
Thomas
pour leur libre participation à ce programme réalisé dans le cadre des conférences de la Société d'astronomie de Nantes. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant ?
C'est d'abord très sympathique parce que quand on marche, on réfléchit. N'oublions pas que les premiers philosophes, justement, réfléchissaient et devisaient en marchant. Et donc, quelle belle façon de le faire, en plus dans la belle ville de Nantes, en rencontrant justement des personnes et en leur posant des questions et en voyant leurs réactions et en les impliquant. C'est super. Les choses ont progressé. Et c'est vrai qu'en 5 ans de temps, il s'en est passé des choses. Ces nouveaux acteurs sur la scène de l'astronautique, comme Elon Musk, moi, il y a 5 ans, vous m'auriez parlé de ce genre de projet, je vous aurais dit, mais c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction. J'étais très réticent à croire qu'il arriverait à faire des choses pareilles. Mais il y arrive. Et donc maintenant, tout ce qu'il fait, je le prends au sérieux. L'une des raisons pour lesquelles on veut explorer la planète Mars, c'est qu'il y a peut-être des formes de vie primitive dans le sous-sol qui nous éclaireraient sur le grand mystère de comment la vie a commencé dans l'univers et quelle est sa probabilité d'apparition. Est-ce qu'elle est apparue une seule fois ou de nombreuses fois ? Donc Mars, c'est une étape.